philosophie et éthique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 4 novembre 1987.
Vous avez posé la question, quelle est l'exigence la plus nette de l'éthique chrétienne? Peut-on dire en philosophie que c'est la contemplation ou la charité fraternelle? Il semble y avoir une opposition entre les deux. Est-ce seulement psychologique? Le philosophe qui n'a pas la foi ne peut pas comprendre le dépassement de l'opposition. Est-ce que le père Festugière, dans Le Sage et le Saint, n'a pas essayé de répondre en philosophe ce qui est impossible? Je ne sais pas ce que dit le père Festugière du haut du ciel. Je vais très vite, puisque nous ne faisons pas ensemble l'éthique chrétienne cette année-ci. Je la fais à Raymond. Comme il n'y a pas de possibilité de courir à toute vitesse à Raymond pour suivre le coup de l'éthique chrétienne, nous faisons cette année-ci, nous, l'éthique religieuse. Mais je réponds quand même un instant à cette question. Le Christ crucifié est établi de par Dieu notre sagesse. Je crois que c'est cela l'exigence la plus nette de l'éthique chrétienne. Mystère de la croix, scandale et folie. Et c'est ce que le philosophe doit regarder en essayant justement de bien comprendre ce qu'est le scandale de la croix, ce qu'est la folie de la croix, et de dire que pour le chrétien, il y a ce dépassement du côté de l'intelligence et du côté du cœur. Le scandale, c'est du côté de l'intelligence. Et la folie, c'est du côté du cœur. Comment dépasser ce scandale et cette folie? Le chrétien dit que c'est sagesse, la croix. Je crois que c'est le cœur de toute éthique chrétienne. Dans une lumière philosophique, humaine, comprendre comment la folie et le scandale de la foi peuvent être dépassés, de la croix peuvent être dépassés. Comment il se dépasse? Alors, c'est bien évident, l'éthique chrétienne n'implique pas la foi. Nous l'avons vu, c'est une éthique philosophique. Il y a une matière nouvelle qui est apportée aux philosophes, la révélation chrétienne, le mystère du Christ. Qu'est-ce qu'il peut en dire en tant que pur philosophe? C'est un problème très intéressant et très important. Vous voyez, je crois que c'est la véritable apologétique de notre temps. Les apologétiques du début du siècle, ça ne colle plus. Je disais à Raymond qu'il faudrait prendre une fois une lecture au réfectoire d'une apologétique du début du siècle. Ça mettrait un climat euphorique très étonnant. Parce que c'est très amusant. C'est très amusant. Et c'est pas vieux. Début du siècle. L'apologétique, cette apologétique-là ne marche plus. Plus du tout. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut une éthique. plus homme que l'homme tout court. Comment le levain chrétien apporte du côté de la foi, du côté de l'espérance et du côté de la charité, du côté de la prudence, du côté des luttes, apporte quelque chose à l'homme dans un développement plus parfait. Et ce développement plus parfait, nous pouvons le saisir en tant que philosophe. Oui, la différence de la théologie morale, c'est qu'on part de la révélation, tandis que le philosophe, lui, part de l'homme et essaie de comprendre. Il interroge l'homme. Oui. Si vous êtes philosophe et que vous êtes croyant, bien saisir ce petit dialogue constant. Si vous êtes novice, donc parfaitement chrétien, vous comprenez très bien le scandale et la folie de la vie religieuse. C'est scandale et folie pour l'homme qui résonne en vous, pour l'homme qui veut quoi, qui veut voir clair en vous. Pour l'homme qui se met à raisonner, scandale et folie. Si ce n'était pas scandale et folie, ça voudrait que notre vie religieuse n'est plus une vie religieuse qui veut nous mettre dans une proximité la plus grande du Christ crucifié. Voie express. Maintenant, on commence à comprendre ce que c'est que l'éthique chrétienne, vous voyez, et combien c'est important dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que je crois que c'est la seule apologétique supportable. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est celle-là qu'on doit toujours avoir en face de ceux qui ne supportent pas le levain évangélique. On doit leur montrer que le levain évangélique apporte sur la croix. Surtout quand ça cogne fort. L'absolu, ce n'est plus la contemplation. L'absolu, c'est la volonté du Père. L'absolu, ce n'est pas la solitude. L'absolu, ce n'est pas le silence. L'absolu, c'est l'accomplissement plénier de la volonté du Père. C'est ça la petite voix, comparativement à la voix du sage, qui est une voix royale, extraordinaire, développer son intelligence. Ça fait bien. Tandis que l'accomplissement de la volonté du Père, ça peut demeurer très obscur et très caché. Et c'est pourtant cela seul qui est au cœur de l'éthique chrétienne. L'accomplissement de la volonté du Père. Alors, maintenant, nous allons entrer en éthique religieuse. Et je vous signaler, et ça il faut bien bien le comprendre, que éthique humaine, éthique religieuse, se tiennent dans un ordre essentiel. évident. Parce que cela présuppose la philosophie première. Et comme on le sait, c'est pas commode d'y entrer. Et on n'en sort jamais. C'est pas commode d'y entrer. Découvrir en lui sans avoir aucun sens de la philosophie première. Vous-même, vous avez dû adorer Dieu bien avant d'entrer. Alors ça s'appuyait ou sur la foi, ou sur des traditions religieuses. Ordinairement à la foi, pour nous, plutôt. Et quand vous regardez dans le monde musulman, je crois que les traditions religieuses jouent énormément. Et souvent, ils ne peuvent pas justifier, mais c'est comme ça, c'est écrit. Alors, c'est la foi liée aux traditions. Une espèce d'herméneutique qui implique les deux. Bon, alors, l'adoration implique la volonté, implique la connaissance. C'est ça ce qui caractérise. Qu'est-ce que c'est que cet acte volontaire? Cet acte volontaire, c'est reconnaître amoureusement un acte de volonté, donc un acte d'amour. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'adoration, c'est un acte d'amour. Un acte d'amour à l'égard de celui qui est source de mon être, source de ma lumière, source de ma vie. J'aime celui qui m'aime. Pour comprendre donc vraiment ce que c'est que l'adoration, il faut regarder l'acte créateur. coextensible à toute la succession du temps. L'éternité ne fait pas nombre avec la succession du temps. La succession du temps, c'est les événements qui sont les uns à côté des autres et qui impliquent cette extériorité des événements les uns par rapport aux autres. L'éternité assume cette succession et met dans cette succession quelque chose d'unique. Voyez, faites un tout petit peu l'analogie de ce que disions tout à l'heure à propos de l'intelligence qui saisit l'être au-delà des sensations. L'acte créateur de Dieu est éternel au-delà de la succession du temps. Les sensations me mettent dans la succession du temps. Il y a un dépassement de cette succession qui fait que j'atteins quelque chose d'éternel. Oui, ceci pour rendre un tout petit peu plus tangible ce mystère de l'éternité et du temps. Un acte éternel. L'acte créateur est un acte éternel. L'acte créateur de mon âme, de l'âme que chacun d'entre nous nous avons actuelle, cet acte créateur qui s'achève dans la création de mon âme immortelle, de mon âme spirituelle. Ce philosophique n'atteint pas immédiatement l'acte créateur de Dieu. Mais j'atteins mon âme, fruit immédiate de l'acte créateur de Dieu. Et c'est par mon âme présente au-dedans de moi-même, mon âme fruit de l'acte créateur de Dieu, que je remonte à l'acte créateur actuel de Dieu sur moi. Vous comprenez que c'est important de saisir ça, parce que je n'adore pas par rapport à quelque chose qui a été. J'adore par rapport à cette dépendance. accepte.